Testostérone. Alors ce soir nous... S'il te plaît Jacques. Ce soir nous démarrons donc ce conseil municipal. Jacques, Nicolas, s'il te plaît. Merci. Nous démarrons cette séance du conseil municipal en accueillant le conseil municipal des enfants. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez été élu tout récemment, hein, je crois le 19 janvier dernier, donc je vous dirai un petit mot tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à Marie-Hélène Biel, qui est en charge de la vie scolaire et à ce titre a la responsabilité du conseil municipal des enfants. Marie-Hélène tient la parole.
Voilà, tout d'abord je voudrais les féliciter pour leur élection. Il y en a 4 CM2 qui ont déjà été élus l'année dernière, mais cette année, nous avons depuis le 19 janvier 8 autres élus. Alors, j'ai la responsabilité du conseil municipal des enfants. Je suis aidée par Florence Lecomte, qui est autour de cette table, et l'animateur qui est en charge de toutes les séances, Patrick Seigneur, qui se cache là-bas derrière. Patrick, levez-vous. Voilà, et qui, lui, va participer, bien évidemment, avec nous à toutes les séances. Voilà, donc je vais appeler les enfants les uns après les autres. D'abord, on va appeler les 4 élus de CM2 de l'année dernière. Donc, on va appeler Gaël.
Bonjour, je m'appelle Gaël Roubal, je suis en CM2, j'ai 10 ans, à l'école La Passerelle, au Thor.
Ensuite, je vais appeler Agathe.
Bonjour, je m'appelle Agathe Van Garcia, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école de La Passerelle, au Thor.
On va appeler Lila.
Bonjour, je m'appelle Lila Verzotti, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école La Passerelle.
Et Lola.
Bonjour, je m'appelle Lola Francescu, je suis en CM2 et à l'école de la Calade.
Voilà, donc maintenant nous allons appeler les CM1. Donc il y a le titulaire et la suppléante. Chaque fois nous avons un titulaire, un élu et la suppléante. Alors, à l'école de la Calade, donc je vais appeler Benjamin et Lily.
Oui, avec Patrick.
Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 10 ans et je suis à l'école La Calade.
Bonjour, je m'appelle Lily Lopresti, j'ai 9 ans et demi et je suis à l'école La Calade.
Ensuite, je vais appeler Paul et Laura.
Bonjour, je m'appelle Paul Guillot-Pommier, je suis en CM1 à l'école de la Passerelle.
Bonjour, je m'appelle Laura Van Speebroek, j'ai 9 ans et demi, je suis en CM1 à l'école de la Passerelle.
Et enfin, on va appeler Mathis et Christine.
Bonjour, je m'appelle Mathis Rémy, je suis en CM1 à l'école des jardins.
Bonjour, je m'appelle Christine Ferré, je suis en CM1 à l'école des jardins.
Ah oui, je ne les ai pas vus. Marouane et Lise.
Bonjour, je m'appelle Marouane Smoussi, j'ai 9 ans, je suis en CM1 à l'école La Passerelle.
Bonjour, je m'appelle Lise Béroudi, j'ai 9 ans, je suis à l'école de La Passerelle.
Donc nous allons pouvoir démarrer officiellement le conseil municipal. Donc nous allons d'abord procéder à l'appel des présents. Et donc je demande à Hélène Mérigot si elle veut bien être secrétaire de séance et faire l'appel des présents. Merci.
Bayon de Noyer, Yves.
Oui.
Biel, Marie-Hélène.
Présent.
Bresson, Laurent.
Présent.
Mérigot, Hélène, présente. Mathieu, Stéphane.
Présent.
Gomez, Eliane.
Présent.
Royer, Christian.
Présent.
David, Mathieu, Christiane.
Présent.
Gay, Patrick.
Présent.
Louis, Olivier.
Présent.
Leclerc, Jean-François.
Présent.
Tavernari, Roland.
Présent.
Fortuné, Françoise, représentée par Florence Lecomte. Nicolas Jacques.
Présent.
Blanès Thierry.
Présent.
Villon Patrick.
Présent.
Vedel Chantal.
Présent.
Lecomte Florence.
Présent.
Gomez Lionel.
Présent.
Andréjevski Renaud Florence.
Présent.
Pereira Elisabeth.
Présent.
Rémi Laurent.
Présent.
Bourdelin Sylvie.
Présent.
Schneider Estelle. Bouillin Marine, Olivier Jacques, Martin Christiane, représenté par Jacques Olivier, Ripoll Bruno, Agog Fernaillon Véronique, Merci.
Merci. Avant de démarrer le conseil, je vous propose que nous puissions faire un petit instant de recueillement, puisque, comme vous le savez, nous avons un ancien du conseil municipal, donc Albert Mathieu, qui a été conseiller municipal de 1977 à 1983, qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Et Albert a été en plus capitaine, je dirais, des pompiers. Je pense que nous lui devons bien, je dirais, cet hommage, si vous voulez vous mettre debout. Merci. Je vous remercie. Donc nous démarrons notre conseil par le premier point qui est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal dernier qui était du 16 décembre 2014. Vous avez tous reçu le projet de compte-rendu. Y a-t-il des remarques, des commentaires ? Oui, oui, Bruno Ripoll.
Oui, en ce qui concerne notre groupe, nous ne le voterons pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'un procès verbal. Il s'agit d'une recollation, on peut appeler ça comme on veut, des différentes délibérations qui ont été votées la dernière fois avec la reprise des votes. Mais il n'y a aucune mention des interventions des membres de notre liste. Donc nous y voyons là un manque de reconnaissance de votre opposition, monsieur le maire, et nous en sommes blessés, d'autant plus que à votre table et dans votre groupe siègent un certain nombre de personnes qui nous avaient dans le passé fait des remarques sur la bonne retranscription des interventions et des procès-verbaux. Nous étions arrivés en fin de mandat, c'était en fin de mandat, à une retranscription audio. Voilà, c'est quelque chose que nous ne retrouvons pas, nous, en étant aujourd'hui dans l'opposition, et nous le regrettons fort, donc nous votons contre.
Très bien, je prends acte, merci. Y a-t-il d'autres commentaires ? Donc je soumets à votre approbation. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc 4 abstentions, donc adopté. Qui est contre ? 4. D'accord, 4 contre. Donc 0 abstention et donc adopté à la majorité. Le deuxième point de l'ordre du jour traite de des communications des décisions du maire. Donc elles sont au nombre de 17. Sur ces 17, il y en a 6 qui traitent des accords que nous avons passés en ce qui concerne les TAP pour le deuxième trimestre de l'année, notamment. Voilà, et puis il y a un certain nombre d'accords qui concernent les contrats liés à l'assainissement, et notamment au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement, qui sont des dossiers, je dirais, importants. Un dossier important également qui est l'investissement de l'acquisition d'une tondeuse autoportée à lame rotative pour le stade, le traitement du stade, pour un montant de 29 753 euros TTC. Voilà. Donc, y a-t-il des commentaires, des questions sur ces décisions du maire ? Oui, monsieur Olivier ?
Oui. Trois questions. Sur les tribunes du foot, pourquoi vous les achetez ? Je pose mes questions, vous répondrez globalement.
Oui, oui, oui.
Sur la fourgonnette diesel, pourquoi une fourgonnette diesel, en plus avec les mesures qui sont en train d'être prises, alors que, pourquoi pas électrique ? Et sur la protection fonctionnelle, une idée du coût estimatif.
Alors, la réponse à la première sur les tribunes du foot. Historiquement, ces tribunes ont été achetées par l'association sportive Thoroise, du football club Thorois. À plusieurs reprises, nous avons fait part de notre non-satisfaction sur la maintenance. Nous avons été amenés à plusieurs reprises, peut-être d'ailleurs dans l'ancienne mandature, à devoir fermer ces tribunes pour raison de sécurité. Bon, ces tribunes ont été positionnées sur un terrain appartenant à la commune. Et donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'à l'époque, la décision d'avoir fait investir ces tribunes, non pas par la commune, mais par une association, était peut-être pas la bonne. Et après avoir discuté longuement avec l'association, il a été convenu que nous reprenions globalement cette responsabilité. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons procédé à l'achat de ces tribunes. En ce qui concerne la fourgonnette diesel, eh bien nous avons joué la carte de l'économie au niveau de l'investissement, et donc c'est ce que nous avons trouvé de meilleur marché. Et par les temps qui courent et les moyens de la commune ne sont pas extensibles, nous sommes amenés à serrer les comptes. Et le troisième point qui traite de, la protection fonctionnelle, oui. Oh, c'est une histoire assez simple, mais on n'a pas d'estimatif du coût, sachant que l'assurance de la commune prendra en charge l'ensemble des frais liés à cette protection fonctionnelle. Donc, je pense que la question ne se pose pas. Oui, je vous en prie, monsieur.
Simplement, je voulais rappeler que sur la tribune foot, la mairie n'a pas fait acheter par l'association, c'est l'association d'elle-même qui l'avait acheté.
Peut-être.
Mais oui, ça avait beaucoup changé de choses.
Mais je dis que c'était peut-être une erreur à l'époque, voilà. Monsieur Ripoll, oui.
Oui, j'observe dans le point 2014-119, qu'une prestation de service à table a été requise auprès de tiers. Quelles en étaient les raisons? Est-ce que c'était pour permettre au personnel de la cantine de venir tranquillement participer à la cérémonie des vœux? Voilà, les repas ont-ils été préparés par à l'extérieur? Voilà, j'aurais voulu des précisions.
Très bien, donc vous avez fait une partie de la réponse à votre propre question. Bien évidemment, à l'occasion des vœux au personnel, il nous paraissait pas très correct de faire le service par des agents de la commune eux-mêmes. Donc voilà. En revanche, l'ensemble des prestations ont été préparées sur la cuisine centrale de la collectivité. Voilà. Pas d'autres questions? Très bien. Donc je vous remercie. Alors nous passons au point environnement, le 15.002, qui traite de l'avis du conseil municipal sur la demande dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau et qui traite du projet d'aménagement de la plaine aval du Coulon et de la confluence Boulon-Calavon sur les communes de Cavaillon, de Robion et au bénéfice du cirque. Ce document étant un peu long, nous en partagerons la lecture avec Christiane David. Alors, nous rappelons que l'enquête s'est déroulée pendant 44 jours consécutifs, du 17 décembre 2014 au 29 janvier, et qu'ont été concernées par cette enquête les communes de Cavaillon, Robion, Les Taillades, Goult, Lagne, L'Île-sur-la-Sorgue, Le Thor, Châteauneuf-de-Gadagne et Caumont-sur-Durance. Donc, l'arrêté, si vous voulez, synthétise le projet, c'est-à-dire que celui-ci est articulé en plusieurs tranches qui s'inscrit dans une stratégie globale de gestion des risques inondations sur la partie aval du Coulon, dont l'objectif est la protection des biens et des personnes entre le canal de Carpentras et la ligne LGV, ainsi qu'à la confluence Boulon-Calavon sur les communes de Cavaillon et de Robion. Ces travaux prévoient le recalibrage du lit du Coulon et l'implantation d'un risberme, la création, la réhabilitation ou l'aménagement de digues de protection, ainsi que la sécurisation de déversement. Il prévoit en outre la réalisation d'une mesure environnementale compensatoire sur la commune de Goult. Donc les enquêtes loi sur l'eau et parcellaire sont conduites au titre des tranches 3.1 et 3.2 du projet. Les tranches sont nombreuses, puisqu'il y en a plus de 11, cours du Coulon délimité par l'aqueduc de la Canaou et le pont de la voie ferrée sur la commune de Cavaillon, ainsi que le mur d'Androin sur la commune de Robion. Donc l'arrêté précise les conditions et les modalités de consultation, il fixe la composition de la commission d'enquête que nous avons reçue, la tenue de permanence, les modalités de la publicité de l'avis d'ouverture d'enquête. L'article 10 de l'arrêté précise que les conseils municipaux des communes concernées sont appelés à donner leur avis motivé sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau dès l'ouverture de l'enquête publique, et que ceux-ci ne peuvent être pris en considération que s'ils sont exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. À ce titre, il appartient donc à notre conseil municipal d'émettre l'avis qui est sollicité. En tout état de cause, les maires de l'ensemble des communes concernées se sont réunis et en concertation ont adressé à la commission d'enquête un avis écrit sur leurs remarques avant la clôture de l'enquête publique. Celles-ci, ces remarques, relèvent de la forme, du fond, mais aussi de l'incertitude relative aux garanties quant à la responsabilité de chacun. Au préalable, il y a lieu d'indiquer que le fait et la nécessité de l'aménagement du Coulon, dans le but d'améliorer la protection des biens et des personnes, tant sur la rive gauche que sur la rive droite, ne prête pas à contestation. Ne l'est également la nécessité de surprotéger la rive gauche par rapport à la rive droite. Donc nous avons voulu affirmer ceci de façon première, de façon à ce qu'on ne nous taxe pas d'être irresponsable vis-à-vis de la protection des populations de la rive droite ou de la rive gauche. Cependant, il convient de s'interroger sur l'impact de cet aménagement en rive droite. Sur ce point, il est tout à fait regrettable que l'évaluation d'impact, notamment en termes économiques et agricoles, n'ait pas été réalisée sur la rive droite. De même, il convient de s'interroger sur la logique d'un aménagement général de la rivière. Or, la lecture de l'intitulé de l'étude « Programme d'aménagement et de gestion de la plaine aval du Coulon » fait ressortir un caractère restrictif, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aménagement général de la rivière qui est traité, mais simplement la gestion de la plaine aval du Coulon. Donc, Christiane ?
L'aménagement envisagé seulement de la partie aval apparaît contraire à la directive inondation bassin Rhône-Méditerranée. En effet, celle-ci indique que les stratégies locales de gestion des risques d'inondation nécessiteront un engagement des acteurs locaux dans leur élaboration en s'appuyant notamment sur un partage des responsabilités, sur le maintien d'une solidarité amont-aval face aux risques et sur la recherche d'une synergie avec les autres politiques publiques. Aussi, dans un souci de respect du fondement de cette solidarité amont-aval, il y a lieu de demander que soit étudiée la réalisation de rétentions, mais aussi de déversoirs en amont de la commune de Robion. De même, toute ambiguïté doit être levée sur le seuil de protection 485 m³/s rive gauche, 300 m³/s rive droite, alors que les déversoirs envisagés évacueraient pour certains à partir d'une crue de 260 m³/s. Aussi, il est contestable formellement que soit indiqué le fait de cette orientation, que cette orientation aurait été choisie d'un commun accord lors des réunions du 7 juillet 2014 et du 29 septembre 2014. À l'occasion de l'enquête publique, il a été demandé d'émettre un avis au titre de la loi sur l'eau sur les tranches de travaux 3.1 et 3.2, et cela conjointement à la décision d'utilité publique générale du projet. Or, ces travaux, tranches 3.1 et 3.2, conditionnent ceux à réaliser sur les autres tranches. Aussi, l'avis favorable de la réalisation préalable des tranches 3.1 et 3.2 devra satisfaire aux conditions suivantes. Le débit minima de surverse en rive droite sur tout le parcours de ces tranches ne pourra être inférieur à 300 m³/s. Les études hydrauliques présentées sur la confluence Durance-Coulon devront être absolument approfondies. Dans ce secteur, le calibrage du Coulon ou l'addition d'un éventuel canal complémentaire devra également porter à minima la capacité de la rivière à 300 mètres cubes seconde. Par ailleurs, il s'avère que l'étude du cirque ne prend pas en considération tout le potentiel latéral à exploiter de l'étude de délimitation de l'espace de mobilité du Coulon. En effet, le secteur identifié sous le numéro 22 n'est pas pris en compte. Celui-ci concerne une digue de 450 mètres de long et représente un espace mobilisable d'une superficie de 26 442 mètres carrés et d'un volume de 170 652 mètres cubes. Cette différence n'est pas justifiée de façon argumentée. Or, selon l'ADREAL, toute différence devrait faire l'objet d'une argumentation. En conséquence, tout le potentiel latéral représenté dans l'étude de mobilité devrait être pris en compte. La connaissance de la plaine permet même d'estimer qu'un potentiel supplémentaire pourrait être exploité et qu'il conviendrait d'étudier. Dans son même avis, l'ADREAL fait apparaître sur la carte représentant le scénario d'un débit à 485 mètres cubes seconde une quantité d'environ 36 mètres cubes seconde d'eau supplémentaire qui se déverserait sur la rive droite. Or, l'évaluation préliminaire des risques occasionnés par ces déversements supplémentaires sur la rive droite n'a pas été réalisée. Le TRI du secteur d'Avignon, en ce qui concerne tout au moins les communes du Thor et de l'Isle-sur-la-Sorgue, ne fait apparaître aucune population ou emploi impacté, même dans son scénario extrême. Il apparaît donc nécessaire de demander que ces évaluations soient réalisées préalablement afin de permettre d'envisager une compensation financière de préjudice économique, notamment de l'activité agricole, qui serait, qui plus est, impactée par la pollution transportée par les eaux.
Le recours à une modélisation mathématique simplifiée ou hydrogéomorphologique, telle que ça a été réalisé, est insuffisant. Il est absolument nécessaire de comparer ces résultats de modélisation mathématique avec le constat de situations réelles connues et bien répertoriées lors du siècle dernier. À cet effet, l'étude générale devrait être revue par la prise en considération des événements connus et notamment les crues de 1907, 1952, 1993, 2014, 2003 et 2008, ainsi que les inventaires des sinistrés. L'étude d'incidence sur la Sorgue par débordement du Coulon n'a pas été réalisée, alors que les antécédents démontrent qu'elles sont effectives avec des risques de crues concomitantes. Ce point manquant est très dommageable pour avoir une lecture réelle des risques liés aux travaux. D'ailleurs, il y a lieu de s'interroger sur la cohérence de se prononcer avant l'adoption du PPRI qui traduira l'aléa de référence. Enfin, il faut noter que l'absence de simulation des conséquences positives d'un entretien approfondi de la rivière, cette simulation alliée aux autres recommandations faites, permettrait de jauger de façon beaucoup plus équilibrée les hauteurs des déversoirs comme cela est demandé.
Enfin, il faut noter l'absence de plan d'entretien général de la rivière. Cet éventuel défaut d'entretien pourrait remettre en cause la stabilité des berges telles qu'elles sont présentées dans le projet et présage des débordements intempestifs importants. L'artificialisation de la rivière ne peut donc être envisagée dans de telles conditions. La responsabilité des collectivités pourrait être engagée aussi bien dans leur gestion de l'entretien du cours d'eau que dans celle de la crise qui en découlerait. Compte tenu du caractère artificiel de la berge, la déclaration de catastrophe naturelle et l'indemnisation des administrés pourraient être remises en cause. À cet effet, il faut que le projet mette en évidence la nécessité de la mise en œuvre d'un engagement financier et technique pour la gestion de l'entretien du coulon. De façon incidente, mais non secondaire, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que le dossier assurance et couverture des dommages consécutifs à une inondation post-travaux n'est absolument pas réglé et n'a fait l'objet d'aucune communication ou engagement. Est-ce que le statut de catastrophe naturelle sera bien maintenu post-travaux ? En l'état actuel, la réponse est incertaine.
Toutes ces remarques ne permettent pas de valider le projet, ni dans ses tranches de travaux 3.1 et 3.2, ni dans son développement complet. Le projet n'est pas équilibré dans ses recommandations et sa conception globale. Il nécessite donc une remise à plat pour prendre en compte les remarques formulées. Pour l'ensemble des arguments développés, je vous propose que le Conseil municipal émette un avis défavorable sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Et je vous prie de bien vouloir en délibérer. C'était un peu long, un peu technique, mais c'est la matière qui vaut cela. Donc, y a-t-il des questions, des commentaires ? Oui, Madame Agoguet ? Prenez le micro, voilà.
Bonsoir à tous. Même si je considère justifiée la demande de précision concernant la prise en compte des sinistres futurs par les assurances, je voterai contre l'avis défavorable que vous avez décidé d'émettre dans le cadre de l'enquête publique afin de ne pas retarder des travaux dont personne, y compris l'association Coulon-Calavon, ne remet en cause l'intérêt. Le problème des indemnisations par les assurances des futurs sinistres me semble être de l'ordre de la sphère privée que l'association aurait pu et même doit défendre pour son compte et celui de ses sympathisants, indépendamment de la mairie.
Oui, il faut savoir aussi qu'il y a des biens communaux qui sont situés sur ce territoire. Donc il est normal que la commune se préoccupe aussi de ses propres biens. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, que la commune, sur cette position-là d'assurance, ne prend une position que pour défendre des privés. Elle prend aussi une position pour défendre des biens qui sont des biens de la commune. Je vous en prie.
Je croyais qu'il n'y avait pas d'inventaire de fait sur justement les biens qui allaient être sinistrés en cas de crue.
C'est une double erreur, si vous voulez. La première des choses, c'est qu'effectivement, le CIRC n'a pas réalisé d'inventaire des biens pour peser, je dirais, les risques en termes économiques. Mais nous, communes, nous savons où sont situés nos biens. Nous le savons. Donc il est normal que, dans ce cadre-là, nous prenions une position pour dire « Et que va-t-il en advenir en termes d'assurance post-travaux ?» Et aujourd'hui, mais le CIRC n'est pas le premier responsable de cette carence de réponse des assurances. Mais il nous a dit qu'il n'avait pas la réponse. Donc je trouve un peu regrettable, si vous voulez, qu'on enclenche des travaux sans en connaître les conséquences en termes d'assurance, que ce soit pour les privés, mais que ce soit aussi pour les biens communaux. Je vous en prie. Jacques-Olivier.
Bien, donc alors, 13 janvier dernier, les commissions environnement, urbanisme et agriculture se sont réunies à l'hôtel de ville pour faire le point sur ce dossier du coulon Calavon. Il s'agissait pour vous, monsieur le maire, de déterminer la position sur le projet de solidification et de construction de digues piloté par le CIRC, en vue de préparer les observations dans le cadre de l'enquête publique ouverte jusqu'au 29 janvier. Au cours de la réunion, il a été dit que la mairie avait intérêt à avoir une position très forte et qu'il fallait faire des remarques qui serviront de base à un recours. Pour moi, qui connais assez bien ce dossier, non seulement je siégeais au parc quand le parc s'est saisi de ce problème avant de le donner au CIRC, je suis aussi représentant de la région au Papy, Coulon-Calavon, et je finance certains dossiers en tant que président de la commission agriculture à la région.
notamment les réserves des réserves d'eau. Donc la première mesure, la seule qui a une efficacité, c'est d'adopter des règles d'urbanisme adaptées à la zone, c'est-à-dire de mettre un terme aux constructions dans les secteurs les plus sensibles. C'est ce qui est dit dans toutes les instances. Cette approche est d'autant plus fondée que la réalité du changement climatique augmente la probabilité de crues plus fortes à l'avenir. Mais cela aurait dû être fait depuis longtemps, effectivement. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses habitations se retrouvent en zone inondable, et pas uniquement dans le quartier des Ratakam. Le projet du cirque est de rehausser les digues du côté de Cavaillon pour contenir les crues jusqu'à un débit de 485 mètres cubes par seconde. Côté rive droite, le débit pris en compte est de 260 à 290 mètres cubes au niveau des déversoirs, effectivement, ce que conteste l'association Action Coulon qui réclame une protection pour un débit de 485 mètres cubes de chaque côté. J'ai expliqué, je ne suis pas le seul, les conséquences qu'aurait effectivement la mise en œuvre de cette demande. Si on fait des digues de chaque côté pouvant contenir une crue de 485 mètres cubes, on inonde des terrains qui sont actuellement à l'abri des inondations, comme les Iscles et Surcommon. Dit autrement, cette option transférerait les inondations chez les voisins en aval. Je ne pense pas qu'ils apprécieraient. J'ai encouragé les uns et les autres à aller s'exprimer et à poser des observations sur le registre de l'enquête publique, appelant chacun à sa responsabilité. Si je comprends et j'encourage le dialogue avec le cirque, pour continuer d'apporter des améliorations pour la suite, je considère que, malgré certains manques que vous pointez, monsieur le maire, le projet mené par le cirque à aujourd'hui améliore fortement la situation 9 fois sur 10, et une fois sur 10, la situation reste inchangée, toute chose égale par ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui a été dit dans cette salle le 13 janvier. Je ne comprendrai donc pas un avis défavorable qui pourrait aboutir à arrêter les travaux, puisque le problème, il est là, soyons clairs. Tout le monde y perdrait. Tout le monde, y compris le tort. Personnellement, je ne prendrai pas la responsabilité que les travaux ne se fassent pas, et je donne donc un avis favorable à cette enquête publique, et je vote contre donc la délibération, mais j'ai compris que vous, monsieur le maire, vous étiez prêt à prendre la responsabilité de l'arrêt des travaux, mais aussi les conséquences qu'il y aurait alors en cas de crue, entre-temps.
Autre interrogation ? Alors, le premier point, bien évidemment qu'il y a des règles d'urbanisme qui, effectivement, n'ont pas été respectées, particulièrement à Cavaillon, pas qu'à Cavaillon, mais particulièrement à Cavaillon. Et la décision aujourd'hui de construire une protection à 485 mètres cubes côté Cavaillon, elle provient du fait que il y a les ratakens qui ont été construits, il y a sur cette zone il y a environ 7000 habitants et qu'il y a un risque. Donc il est clair que les maires de l'époque et les préfets de l'époque ont commis des erreurs considérables. Faut-il pour ça dire, bah tant pis, on déverse complètement de l'autre côté? Je me pose la question. Le deuxième point, dans notre recommandation, jamais nous n'avons écrit que nous voulions une protection de 485 mètres cubes, et jamais, sauf si on m'amène la preuve du contraire, l'association Coulon n'a écrit qu'elle voulait une protection de 485 des deux côtés. Ça veut dire qu'on construirait globalement un mur des deux côtés, et puis faillitira jusqu'à Comont. Voilà. Donc, je pense que ça n'a jamais été écrit. Donc, je me permets juste de rectifier ce point parce que ça serait pas juste de l'avoir dit. Notre position n'est pas de dire qu'il faut arrêter les travaux. Nous souhaitons que le dossier soit revu. Ça fait déjà 6 ou 7 ans que le projet est en travail, hein. Donc, que le projet soit revu, nous avons pris la précaution d'écrire les points sur lesquels le projet pouvait être revu. Nous pensons que c'est une position beaucoup plus équilibrée, et nous avons pris langue avec des spécialistes en la matière, et donc nous encourageons par notre position, et nous sommes pas les seuls à prendre cette position, puisque l'ensemble des communes qui sont citées et qui sont concernées vont prendre cette même position, donc nous ne sommes pas les seuls, donc nous encourageons à revoir le projet, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus équilibré, et je pense qu'il y a tout à fait l'espace pour qu'il soit plus équilibré, sans que ça coûte d'ailleurs plus cher. Donc voilà pourquoi nous estimons que cette position est une position responsable, car si nous ne la prenons pas, et que post-travaux, il y a tous les inconvénients d'une accélération d'inondation, de non-indemnisation des privés ainsi que des publics, eh bien là, oui, nous aurons été coupables de ne pas avoir pesé notre responsabilité. Voilà pourquoi je recommande d'encourager le cirque, vraiment, à revoir sa copie.
Je redis, malgré ce que vous dites, parce qu'à un moment où vous êtes parti de cette réunion, il a été dit, ici, dans cette réunion, que la demande, c'était un mur de 485 mètres cubes par seconde de chaque côté. C'est peut-être pas écrit, mais ça a été dit ici, c'est pour ça que je l'ai souligné, puisque peut-être que c'est pas écrit, encore que j'ai vu des documents, moi, et des mails où il en était question. Mais ça a été dit, de toute façon, dans cette salle.
En tout cas, moi, c'est pas du tout la position que nous, la commune, nous avons prise. Et de ma connaissance, l'association Coulon n'a jamais écrit ou pris ce type de position. Je peux l'affirmer. Voilà. Donc, je vous propose de passer, je dirais, au vote. Hein. Donc, je vous fais grâce de, vu le Code général des collectivités, etc. Donc, après en avoir délibéré, décide d'émettre un avis motivé défavorable dans le cadre du volet autorisation au titre de la loi sur l'eau, prévu dans l'enquête publique unique préalable prescrite par l'arrêté préfectoral numéro 2014-325-002 du 21 novembre 2014, relatif au projet d'aménagement de la plaine aval du Coulon et de la confluence Boulon-Calavon sur les communes de Cavaillon et de Robion au bénéfice du cirque, et d'adopter les arguments qui sont joints à la présente délibération. Donc nous avons mis une annexe qui est conforme à ce que nous vous avons lu avec Christiane David. Donc je soumets ça à votre vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Donc deux contre, trois contre. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Donc adopté à la majorité. Je vous en remercie. Donc la délibération suivante, c'est la subvention aux particuliers pour l'acquisition d'un broyeur à végétaux. Donc Estelle Schneider, si tu veux bien nous la présenter. Merci.
Bonsoir. Enfin, d'encourager les particuliers à faire des économies d'énergie et à réduire les pollutions, la commune propose de verser une subvention aux particuliers pour l'acquisition d'un broyeur à végétaux. Il s'agit d'un outil motorisé qui réduit en copeaux les déchets volumineux du jardin. Ces déchets peuvent trouver bien des emplois au jardin lorsqu'ils sont transformés en broyat. Ce broyat peut servir pour parier les sols et également être mis en mélange avec les résidus de tonte pour être transformé en compost et permettre des apports azotés et carbonés intéressants. L'instruction des demandes de subvention se fera par ordre d'arrivée des dossiers. La subvention sera versée par résidence, une fois l'achat du matériel réalisé, et après vérification des pièces suivantes remises par le bénéficiaire. Copie de la facture acquittée, une fiche reprenant les caractéristiques techniques du broyat. Cette aide a été mise en place en juin 2011. Elle a permis pour les années 2011 à 2013 de subventionner 12 dossiers. En 2014, 8 dossiers ont été subventionnés pour un montant de 1 057,79 €. Il est proposé de renouveler l'attribution d'une subvention par habitation située sur le territoire de la commune, ce montant à 20% du prix d'achat, taxes comprises, avec un maximum de 150 €. À cet effet, un budget de 2 000 € est affecté. Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, article 20421, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, biens mobiliers et matériels.
Donc je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des questions sur ce point? Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Donc décider d'attribuer une subvention de 20% du prix d'achat d'un broyeur à végétaux à toute taxe comprise, avec un maximum de 150 euros par habitation située sur le territoire de la commune. On précise que le versement interviendra après l'achat du matériel et transmission par le bénéficiaire à la mairie des pièces suivantes, attestation de domicile, copie de la facture acquittée, relevé d'identité bancaire ou postale, caractéristiques techniques de l'appareil. Et on précise que pour être admissible à une subvention, le broyeur à végétaux doit répondre aux exigences suivantes, telles que ça vous a été décrit, hein, et d'affecter pour cette opération un montant de 2000 euros pour l'année 2015, pris sur le chapitre 20. Donc y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc adopté à l'unanimité. Merci pour les broyeurs. Donc, la délibération suivante est dans le domaine de l'environnement, c'est la subvention en particulier pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. Estelle, merci.
Donc, nous avons la chance de vivre dans une région qui bénéficie d'un fort ensoleillement. Cet ensoleillement permet de produire de l'eau chaude sanitaire avec un bon rendement. Le chauffe-eau solaire individuel peut en effet couvrir jusqu'à 70% des besoins en eau chaude sanitaire d'une famille. De plus, cette source de chaleur ne génère pas de pollution et permet de diminuer le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le coût d'installation de cet équipement se situe entre 4 000 et 6 000 euros. Pour favoriser le développement de cette énergie, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs accessibles aux particuliers. Ainsi, le Conseil général a modifié les modalités d'attribution des subventions dans le cadre de son dispositif en faveur de la sobriété énergétique. Une aide de 300 euros est accordée pour les propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources majorées de l'ANA, ainsi que pour les propriétaires bailleurs de logements conventionnés sociaux ou très sociaux. La commune du Thor a mis en place ce dispositif par délibération en date du 20 février 2007. Elle apporte une aide financière de 200 euros pour l'installation d'un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire. Au cours des années 2007 à 2013, 33 dossiers ont été instruits. En 2014, il n'y a pas eu de demande. La commune souhaite renouveler cette opération pour l'année 2015. À cet effet, elle affectera un budget de 1000 euros. L'instruction des demandes de subvention se fera par ordre d'arrivée des dossiers. La subvention sera versée par propriété une fois les travaux réalisés et après vérification des pièces remises par le bénéficiaire. Le dossier comprendra un certificat d'agrément Calisol remis par l'installateur et une copie de la facture acquittée. Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, article 20422, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, bâtiments et installations.
Merci. Je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, décide d'attribuer une subvention de 200 euros par habitation située sur le territoire de la commune pour l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel. Précise que le versement interviendra après achèvement des travaux, sur présentation par le bénéficiaire d'une copie de la facture acquittée et d'un certificat d'agrément Calisol remis par l'installateur et d'affecter bien évidemment un montant de 1000 euros dans le budget. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc je vous remercie, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, délibération suivante, traite dans le cadre du contrôle de légalité d'une dématérialisation des actes budgétaires et que c'est un avenant à la convention initiale. Patrick Gay, si tu veux bien nous le commenter. Merci.
Alors, il s'agit d'une délibération encore purement technique qui vise à permettre à la mairie d'envoyer à la préfecture pour contrôle de légalité les actes budgétaires, comme le permet maintenant le progrès de l'informatique et l'acquisition de nouveaux logiciels. En 2010, une convention a été signée entre la mairie et la préfecture pour permettre d'envoyer un certain nombre d'actes par voie de télétransmission, donc par voie téléinformatique. Il s'agit de voter un avenant à la convention de 2010 pour rajouter à la liste des documents pouvant être transmis les documents budgétaires, les actes budgétaires, c'est-à-dire le budget, le compte administratif, le budget initial, le budget final, etc. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer.
Merci Patrick. Y a-t-il des questions sur ce point, qui est technique, simple ? Donc je vous propose de passer au vote, de donner votre accord pour la télétransmission des actes budgétaires par l'intermédiaire d'un tiers de télétransmission et d'autoriser donc le maire à signer l'avenant à la convention avec la préfecture de Vaucluse afin de permettre la transmission dématérialisée des documents budgétaires. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Merci bien. Donc approuvé à l'unanimité. Le point suivant traite de l'animation et festivités et traite de la convention d'objectifs annuels entre la commune et l'association Ambiance Tauroise. Donc Jean-François Leclerc, si tu veux bien nous le commenter. Merci.
Bonsoir tout le monde. La commune du Thor a la volonté que la ville connaisse une nouvelle dynamique d'animation, impulsée en lien avec les Taurois, les associations et le tourisme. Un comité des fêtes vient d'être créé en décembre 2014, constitué en association loi 1901 et a pris pour nom Ambiance Tauroise. Son objet prévu par ses statuts est d'étudier, de préparer et d'organiser certaines festivités et manifestations sur le territoire du Thor et d'aider efficacement toutes les initiatives d'animation. Il organise et coordonne également avec d'autres collectivités communales et intercommunales des actions ponctuelles. Dans cette optique, et afin de réaliser son programme d'activité 2015, Ambiance Tauroise a sollicité auprès de la commune une aide. Au vu de cette demande, la commune a identifié plusieurs projets de cette association qui répondent à ses propres objectifs, rappelés ci-dessus, et souhaite les soutenir. Par voie de conséquence, il convient dorénavant de contractualiser les relations entre la commune et l'association Ambiance Tauroise en termes de financement et de moyens matériels. Concernant l'aspect financier, lors du vote du budget primitif 2015 par le Conseil municipal du 16 décembre, il a été prévu une augmentation de l'enveloppe des subventions dédiée aux associations tauroises. Celle-ci est compensée par une diminution des charges de fonctionnement affectées aux animations gérées directement par la commune. Il est donc proposé une subvention de fonctionnement de 30 720 euros sur laquelle Ambiance Tauroise s'engage à organiser les manifestations suivantes: la fête nationale de l'attelage, la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet, la fête votive et une manifestation de fin d'année. De plus, Ambiance Tauroise a été retenue pour prendre en charge l'organisation de la manifestation tauroise de l'édition du Festival de la Sorgue, en supplément des événements qui auront lieu durant la période du festival. Il est demandé à chaque commune de financer une manifestation spécifique dont l'organisation est confiée à une association locale. Le financement prévoit une subvention de la communauté de communes de 3 500 euros et une subvention forfaitaire de la commune du Thor de 2 000 euros. Concernant les moyens matériels, et comme cela a déjà pu se faire pour d'autres associations, la municipalité mettra à disposition d'Ambiance Tauroise gratuitement un local. Ceci fera l'objet d'une convention spécifique. De plus, l'association en tant que telle pourra solliciter l'occupation d'autres salles ou la mise à disposition du matériel de façon ponctuelle en se référant au protocole municipal de réservation prévu à cet effet. Le projet de convention joint en annexe à la délibération précise les engagements et les rôles de la commune et d'Ambiance Tauroise. Assurance, éléments administratifs et comptables. L'Assemblée délibérante est invitée à l'approuver et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous prie de bien vouloir délibérer.
Merci Jean-François. Y a-t-il des questions avant de passer au vote ? Oui. Madame Agoguet, oui, je vous en prie.
Voilà.
J'ai bien noté qu'un contrôle des comptes sera fait a posteriori de l'utilisation de ces sommes, mais il me semble que cette pratique, qui tend à donner un chèque en blanc à des individus, leur permet d'échapper aux règles de passation des marchés publics pour l'utilisation de deniers pourtant publics. D'autre part, je m'interroge toujours sur l'opportunité de la création d'un comité des fêtes quand l'ensemble des manifestations prises en charge l'étaient par les services de la mairie pour un coût bien moindre, moins de 20 000 euros.
Alors, c'est Jean-François, tu réponds, tu veux répondre ou... Il vaut mieux pas. Non. Alors, je vais répondre à Madame Agoguet, puis je laisserai la parole à Jacques-Olivier ensuite. Votre chiffrage est étonnant, si vous voulez, parce que quand vous dites moins 20 000, vous auriez pu dire 10 000, ça sort d'où? Le montant qui est affecté à Ambiance Thoroise est exactement le même au centime près, que la dépense réalisée en 2014 par une gestion communale, manifestation par manifestation, au centime près. Donc pourquoi nous avons décidé de créer un comité des fêtes? C'est ça la vraie question. Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse être opposé à la création d'un comité des fêtes. Je respecte les opinions. Mais pourquoi nous avons voulu le créer? Vous savez, par les temps qui courent, une commune n'a pas des budgets qui sont extensibles. Ça veut dire qu'en termes de moyens humains, elle ne peut pas gonfler ses effectifs. Et au contraire, elle devra être extrêmement précautionneuse. Et à côté de ça, vous avez, sur le Thor, 45 taurois. 45, pas 3, 4, 45 qui ont dit, moi, je suis intéressé à consacrer du temps pour animer le comité des fêtes, pour y participer, pour organiser des fêtes, etc. 45. D'abord, je trouve que c'est un geste citoyen de démarche collective extrêmement intéressant. Et pourquoi la commune dirait, non, toi, reste où tu es, nous, on s'occupe de tout. On a une personne et demie. Une personne et demie à la direction de l'action culturelle et des animations pour s'occuper de ça. Voilà, donc le bon sens c'est de dire, il y a des initiatives individuelles, mais pourquoi pas les accueillir. Bien évidemment, il faut les mettre dans un cadre de gestion, c'est évident. C'est pour ça que nous passons une convention, je pense que vous l'avez lue la convention, qui est précautionneuse sur le fait des contrôles que nous allons effectuer sur l'utilisation des deniers, mais de la même façon que nous versons des subventions à tel ou tel type d'association sportive ou autre, et que nous effectuons un contrôle a posteriori.
Oui, sauf que du coup, il n'y a pas de marché et c'est pas c'est pas décidé.
Alors, il y aura l'association elle-même va passer des marchés. Bien évidemment, mais à partir du moment où on décide de le déléguer à une association, il est évident que ça ne sera pas délibéré en conseil municipal. En revanche, les comptes de l'association pourront être présentés au conseil municipal, c'est évident, hein. Voilà. Et donc je pense vraiment, mais écoutez, donnons-nous peut-être l'année, hein, que le fait de mobiliser 45 personnes, taurois, sur l'organiser les festivités, ça part peut-être du bon sens, quoi. D'autres communes l'ont fait. Hein, on n'est pas des innovateurs en la matière. Hein, on est plutôt suiveurs. Hein. Voilà. Jacques-Olivier, une question.
Oui. Oui, moi, j'ai toujours considéré que le comité des fêtes avait tendance à tuer l'initiative des autres associations. Mais ça, chacun le voit à sa manière. On pourrait par contre seulement constater que les subventions de la mairie représentent 85% du budget de l'association et qu'il y a donc deux poids, deux mesures et une inégalité très forte entre les associations thoroises. Pourquoi pas le même traitement pour des associations d'intérêt général qui mènent une action indispensable en direction de nos concitoyens qui en ont le plus besoin, par exemple le Thor Tous Ensemble, que votre adjointe connaît bien. Mais en fait, tel que vous nous le présentez, tel que vous nous la présentez, cette délibération et ce comité des fêtes, il peut être assimilé à une association que l'on dit transparente. C'est une association transparente. Les ressources propres se montent à 5,7%. et l'objet de l'association déclarée en préfecture dit que les actions se feront en fonction d'un programme élaboré en accord avec la commune, ce qui est normal, mais ça veut dire que c'est une association transparente, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire notamment que, effectivement, l'association ne pourra pas éviter les règles concernant les marchés publics dont vient de parler Véronique Agogué-Fernaillot.
Je sais très bien que vous étiez opposé à la création du comité des fêtes, puisque vous avez procédé à l'arrêt du précédent. Donc, vous êtes tout à fait cohérent et constant dans
votre... Je n'ai pas arrêté du tout le précédent, ici. Mais alors, pas du tout.
Chacun parle à son tour, sinon c'est le café du commerce. Donc, voilà. Donc, je comprends tout à fait que vous soyez opposé. Je respecte votre position. Bon, donc néanmoins, je soumets au vote de ce conseil municipal la création et la convention entre la collectivité et Ambiance Tournoise. Et puis on verra bien au bout d'un an comment les choses fonctionnent. Donc y a-t-il des oppositions, une opposition, des votes contre, des abstentions, deux abstentions, trois abstentions, une opposition. Donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Le point suivant traite de la restauration du beffroi, mais plus particulièrement de la demande de subvention à l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et donc Florence Andrzejewski, si tu veux bien nous la commenter. Merci.
Bonsoir à tous. Comme vous le savez, le beffroi marque l'entrée sud du centre ancien du village. Ce monument a été érigé en 1847 sur l'une des anciennes portes des remparts. En 1927, il a été percé de deux passages piétons latéraux. Il a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 11 octobre 1929. La restauration de cet ouvrage, maintes fois repoussé, devient aujourd'hui indispensable. De ce fait, le conseil municipal a, dans le cadre de son budget prévisionnel 2015, inscrit ce projet pour un montant global de 350 000 euros, dont 320 000 pour les travaux et 30 000 pour les études et la maîtrise d'œuvre. Une réunion de concertation a eu lieu avec l'ingénieur de la DRAC qui sera chargé du suivi de ce dossier. À son issue, il a été décidé de réaliser une restauration générale. La commune a également choisi d'être accompagnée par un maître d'œuvre qui assurera, après diagnostic préalable, une mission complète. En effet, vu la spécificité du projet, les compétences d'un maître d'œuvre spécialisé sont nécessaires. La restauration de l'édifice sera générale depuis sa base jusqu'au sommet. Ainsi seront restaurés les parements de pierre, les joints, les enduits. Le campanile, cage de fer et de fonte complètement oxydés, comporte des altérations de structure au niveau de ses colonnes en fonte. Ces dernières devront être consolidées. L'ensemble, y compris la balustrade, recevra une protection contre l'oxydation. De même, toute l'horlogerie sera révisée. Les menuiseries détériorées seront remplacées. Enfin, une discussion est engagée dans le but de dissimuler ou de supprimer des sirènes d'alerte. Le coût prévisionnel du projet municipal est estimé à 351 200 euros TTC, répartis comme suit. Travaux, 220 000 euros TTC. Honoraires, contrôles et divers, 31 200 euros TTC. Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux au titre de l'année 2015, qui peut accorder une subvention de 35% pour une dépense plafonnée à 230 000 euros hors taxe, soit un montant de 80 500 euros. Le dossier doit être déposé en préfecture avant fin février 2015. Le plan de financement serait le suivant. Dans les dépenses, coût du projet hors taxe 292 667 euros, coût du projet TTC 351 200 euros. En recette, on trouve donc la dotation de l'État DETR pour 2015, 80 500 euros. La subvention de la DRAC, 73 150 euros. Celle du Conseil régional, 20 000 euros. La réserve parlementaire pourrait abonder à 15 000 euros. Et en autofinancement, la commune abonderait de 104 017 euros. Le montant de la TVA s'élève à 58 533 euros. Les autres demandes de subvention font l'objet de délibérations ultérieures.
Merci Florence. Donc je vous propose de bien vouloir en délibérer. Donc avant de procéder au vote, y a-t-il des questions, des interrogations? C'est Olivier, oui.
Simplement pour faire remarquer qu'il s'agit là de la deuxième phase des travaux sur la restauration du beffroi, puisque la première phase avait été faite il y a 2 ans et avait consisté à refaire l'intérieur complet du beffroi, et notamment changer l'escalier intérieur.
Merci de ce mot d'histoire. D'autres questions? Non. Oui, je vous en prie, Bruno, Ripoll.
Oui, merci. Vous évoquez la possibilité de supprimer ou de dissimuler les sirènes d'alerte. Est-ce que vous avez avancé dans cette réflexion? Est-ce que vous en savez plus à aujourd'hui? Est-ce que vous avez un projet?
Oui, donc dans les réflexions qui ont été menées suite à la dernière commission de sécurité et après étude technique de la faisabilité des choses entre les compétences, les informations données par la DRAC et les informations techniques qu'on a pu récolter, il serait retenu une option de pose de sirène sur le clocheton, sur la tourelle de la mairie. Voilà. Donc là, on a encore une réunion avec les pompiers, mais a priori, on s'oriente là-dessus, quoi. Voilà.
D'autres questions? Non? Donc très bien. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide financière de l'État pour la restauration du beffroi dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2015 avec le plan de financement tel qu'il vous a été détaillé préalablement. Donc y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant concerne l'urbanisme et l'autorisation donnée au maire pour signer et déposer un permis de démolir des anciens garages situés parcelle section AC 817. Donc Christian Royer, tu veux bien nous le commenter. Merci.
Bonsoir. La parcelle cadastrée section AC numéro 817, 6 cours Gambetta, appartient à la commune. Elle est située au sud-est de l'hôtel de ville et elle est bordée au nord par la petite Sorgue. Un immeuble à usage de garage d'environ 240 mètres carrés est implanté sur la limite ouest et occupe toute la longueur de la parcelle du nord au sud. Ce bâtiment est situé face aux écoles de la Garance et de la Passerelle, le long de l'esplanade devant la mairie. Ses dimensions sont d'environ 30 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Les murs se constituaient pour partie de pierre et de briques. La toiture est composée de plaques amiante-ciment et de tuiles plates. Ce bâtiment est très vétuste et ne répond plus à un besoin communal. Il ne présente aucun intérêt architectural ou historique. Son positionnement et son état nuisent à la qualité du site. Dans le cadre du programme d'aménagement solidaire, donc PASS, et suite à une étude de structuration urbaine sur le territoire communautaire, la commune du Thor œuvre en faveur de la requalification du centre ancien. Celle-ci porte notamment sur la valorisation des espaces publics déclinés au travers du réaménagement de plusieurs places ou secteurs, de la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux conventionnés. Sur cette base, une étude pré-opérationnelle sera lancée prochainement afin de réaménager les abords de la mairie et la place du fer à cheval pour en faire un espace public de qualité où cohabitent les différents usagers. À cet effet, il est nécessaire d'améliorer les conditions de circulation des piétons en repensant le stationnement et la circulation des véhicules. Les espaces seront à redéfinir en prenant en compte celui qui aura été créé par la démolition du bâtiment abritant les anciens garages. Celle-ci permettra au bureau d'études retenu de mieux apprécier les potentialités du site. Un diagnostic amiante sera à réaliser au préalable. En application de l'article R421-28C du Code de l'urbanisme, cette démolition doit être précédée d'une demande de permis de démolir, car ce bâtiment est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques classés ou inscrits. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et à déposer cette demande.
Merci. Donc, avant d'en délibérer, y a-t-il des questions, des interrogations? Oui, Bruno Ripoll.
Quelle destination donnerez-vous au terrain mis à nu après une démolition?
C'est l'avant, l'antépénultième paragraphe, hein. Donc les espaces seront à redéfinir en prenant en compte celui qui aura été créé par la démolition du bâtiment abritant les anciens garages. Et tout ceci va rentrer dans le cadre d'une étude qui est financée par le PASS. Voilà. Donc immédiatement, ça va laisser un terrain disponible. Et puis, dans le cadre de l'étude, on verra quelle destination on lui donne. Voilà. En réalité, on ne démolit pas pour construire. Hein, on démolit parce qu'il faut démolir. Et c'est tellement pas beau que... Voilà. Je crois d'ailleurs savoir que la précédente municipalité l'avait projeté également.
Oui, il n'était pas prévu un arrêt de bus, par exemple, à cette place ?
Ah, je ne sais pas. Ça, j'ai pas vu ça dans les dossiers, mais c'est peut-être une idée, peut-être. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose d'en délibérer, d'autoriser monsieur le maire à signer et à déposer une demande de permis de démolir en vue de la démolition des anciens garages communaux situés sur la parcelle cadastrée section AC 817. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite de l'urbanisme et notamment du plan de rattrapage des logements sociaux. Donc c'est un document qui est un peu long et que nous avons décidé de lire à deux voix avec Christian Royer. Donc comme vous le savez, notre commune a l'obligation de réaliser des logements locatifs sociaux en application de l'article 55 de la loi, etc., du 13 décembre 2000, et qui est baptisé la loi SRU. Dans sa rédaction d'origine, cet article impose un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20% du total des résidences principales. Ce dispositif s'applique aux communes de plus de 3500 habitants, situées dans une agglomération, unité urbaine au sens de l'INSEE, de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. La commune du Thor est donc soumise à ce dispositif depuis 2012. Au 1er janvier 2012, la commune du Thor comptait 200 logements locatifs sociaux. Le taux de ce type de logement sur la commune était de 5,95%. Le nombre de logements manquants pour atteindre le taux de 20% était de 472. La loi du 18 janvier 2013 a renforcé les obligations de production de logements locatifs sociaux à hauteur de 25%, portant ainsi à 859 le nombre à atteindre au 1er janvier 2014. Le nombre de ces logements manquants sur la commune est donc aujourd'hui de 659. À cette date, pardon, de 659. Donc Christian ?
Modalité de rattrapage. Cette loi a également renforcé le rythme de rattrapage des obligations afin qu'en 2025, les communes aient atteint le taux légal. L'évaluation de rattrapage se fait par période triennale. Pour la cinquième période triennale de 2014 à 2016, l'objectif de rattrapage ne peut être inférieur à 25% du nombre de logements locatifs sociaux manquants. L'objectif triennal 2014-2016 à réaliser est donc de 165 logements locatifs sociaux, c'est-à-dire 659 multiplié par 25%, donc à livrer avant fin 2016. La commune a également l'obligation de diversifier le parc de logements locatifs sociaux au niveau de leur taille et de la typologie de financement. Le Thor n'est pas couvert par un programme local de l'habitat et dispose de moins de 10% de logements sociaux. À l'objectif triennal précité, il est donc appliqué un minimum de 30% de logements à réaliser en PLAI, c'est-à-dire des prêts locatifs aidés d'intégration, et un maximum de 20% de logements à réaliser en PLS, c'est-à-dire prêts locatifs sociaux. Les sanctions encourues. Depuis 2013, la commune est soumise à un prélèvement financier. Atténuation de produit 2014, 89 169 euros sur le nombre de logements sociaux manquants. Si la commune n'atteint pas l'objectif de rattrapage pour 2016, le préfet pourrait engager une procédure de constat de carence. Cette situation pourrait alors être prononcée par arrêté motivé. Ses effets seraient les suivants. Possibilité de multiplier jusqu'à 5 fois le montant du prélèvement. Transfert de l'exercice du droit de préemption urbain au préfet. Dans toute opération de construction de plus de 12 logements ou plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux seront des logements locatifs sociaux. La commission départementale nationale chargée de l'examen du respect du programme de construction, dépendant des obligations de réalisation de logements sociaux, définira et mettra en œuvre un programme de construction. Celui-ci se traduira par la signature d'une convention avec un organisme social et le transfert au préfet de la signature des permis de construire dans les communes récalcitrantes, qui devront contribuer au programme à hauteur de 55 000 euros maximum par logement créé.
Donc il convient de rappeler les actions qui sont déjà mises en œuvre. Donc on rappelle, par délibération du conseil municipal du 16 septembre 2008, notre commune a établi un cadre d'action en faveur de la réalisation de logements locatifs sociaux, avec la réalisation d'une étude pour permettre la construction de logements locatifs sociaux sur les terrains appartenant à la commune. Une étude a été conduite par le CAUE au lieu dit Grange-Vieille sur un terrain communal. La collectivité a divisé une partie de ce terrain en vue d'accueillir un programme de 40 logements sociaux qui ont été réalisés par Mistral Habitat et qui ont été livrés effectivement en novembre dernier. Deuxièmement, l'exercice du droit de préemption urbain dans le but de permettre la construction de logements locatifs sociaux. Dès 2009, la commune a signé avec l'EPFR, PACA, donc des conventions opérationnelles de veille et de maîtrise foncière sur plusieurs secteurs, la Sauzette, le pôle Gare, les Estourants, les Araignées, les Angevines. Sur le site de la Sauzette, une parcelle a été acquise par l'EPF PACA afin d'y réaliser un programme d'une vingtaine de logements locatifs. Cette opération est actuellement confiée à Grand Delta Habitat, qui étudie le projet et est devenu acquéreur d'ailleurs du terrain avant le 31 décembre. Sur le terrain des Angevines, comportant d'anciens entrepôts à requalifier, plusieurs propriétés ont été acquises par l'EPF PACA en vue de la réalisation de logements. Programme compliqué d'ailleurs. Troisième point, la modification du POS dans le but d'inclure des critères sociaux. Le POS a été modifié le 25 janvier 2011 afin d'imposer dans les zones U et NA, à vocation d'habitat, un quota de 25% de logements locatifs sociaux pour les programmes de plus de 15 logements. Quatrièmement, négociation avec Réseau Ferré de France et la SNCF pour la mise à disposition de terrains ferroviaires en friche pour la construction de logements locatifs sociaux. Donc il a été réalisé une étude préopérationnelle sur les secteurs Pôle-Gare, et par arrêté de M. le préfet de région en date du 14 avril dernier, ces terrains ont été recensés dans la liste régionale des biens de l'État et des établissements publics de l'État mobilisables aux fins de logement. Donc il est proposé de poursuivre ces actions et bien sûr de les compléter, ce que nous avons déjà mis en œuvre. Christian.
Action à mettre en œuvre en vue du rattrapage pour la période 2014-2016. Plusieurs projets sont livrés, en cours de réalisation ou d'étude. Leur mise en œuvre devrait permettre d'atteindre environ 120 logements livrés d'ici fin 2016. En parallèle, la commune propose d'intégrer dans le plan local d'urbanisme, le PLU, en cours d'élaboration. Plusieurs points. Une augmentation de la part des logements locatifs sociaux imposés dans les futures opérations de construction. L'inscription d'emplacements réservés destinés à la construction de logements locatifs sociaux. La délimitation de secteurs à l'intérieur desquels les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficieront d'une majoration du volume constructible en application de l'article L127.1 du Code de l'urbanisme. La commune est consciente que la production neuve ne suffira pas à combler le déficit. Pour cela, elle souhaite en outre étudier un programme visant à promouvoir la réhabilitation du bâti existant en logements locatifs sociaux. À cet effet, il est proposé de mettre en œuvre une étude sur le centre-ville afin d'identifier les bâtiments mobilisables pour le logement et analyser l'opportunité de conduire une opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'APA. Des actions de communication incitative auprès des propriétaires privés de logements vacants ou dégradés. Un accompagnement au montage de conventions avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, avec ou sans travaux, qui pourra être assuré par une structure compétente, notamment des associations et des agences immobilières à vocation sociale géographiquement compétentes. Une étude sur la possibilité d'intégrer les logements communaux dans le parc de logements sociaux. En application de l'article L302.8 du Code de la construction et de l'habitation, Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'engager la commune dans la réalisation des obligations de rattrapage au titre de la période 2014-2016. Cet objectif est fixé à 165 logements sociaux, correspondant à 25% du nombre des logements sociaux manquants sur la commune au 1er janvier 2014. Nous prions de bien vouloir en délibérer.
Merci. Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions, des interrogations ? Monsieur Jacques-Olivier, oui.
Oh non, simplement, je voudrais dire que cette délibération le fait plaisir. Parce qu'après tout ce qu'on a entendu ici dans cette salle lors du mandat précédent, notamment de M. Bresson, de M. Mathieu, de Mme Abiel, sur le fait même, on a même entendu qu'il valait mieux payer la taxe que de faire du logement social, je vois qu'on est revenu à la raison et on ne peut que s'en féliciter. Et se féliciter de ce rapport que nous voterons et qui valorise en fait tout ce qui a été fait dans le mandat précédent. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faudra continuer, je vois que c'est dit dans le rapport, puisqu'effectivement le mal-logement est une catastrophe sur notre commune. Et c'est une catastrophe notamment pour les enfants, leurs parents, mais aussi nos anciens. Donc nous voterons avec plaisir cette délibération.
Très bien. Après ce point de rappel à la préhistoire, je vous propose donc de délibérer et de voter. Donc, décide d'engager la commune dans une politique de rattrapage de logements sociaux, locatifs sociaux pour la période triennale 2014-2016, visant à atteindre un objectif de réalisation de 165 logements sociaux, correspondant à 25% du nombre des logements sociaux manquants sur la commune au 1er janvier 2014. Deuxièmement, précise que la commune n'était pas couverte par un programme local de l'habitat, et disposant de moins de 10% de logements sociaux, à cet objectif triennal sera appliqué un minimum de 30% de logements réalisés en PLAI et un maximum de 20% de logements réalisés en PLS. Décide, troisièmement, de poursuivre les actions définies dans la délibération du Conseil municipal du 16 septembre 2008 pour la conduite d'un programme de construction de logements locatifs sociaux et de les compléter en intégrant dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, d'une part, une augmentation de la part de logements locatifs sociaux imposés dans les futures opérations de construction, deuxièmement, l'inscription d'emplacements réservés destinés à la construction de logements locatifs sociaux, troisièmement, la délimitation de secteurs à l'intérieur duquel les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficieront d'une majoration du volume constructible en application de l'article L127.1 du Code de l'urbanisme. Et enfin, d'adopter le cadre d'action suivant afin de mobiliser le bâti existant pour la réalisation de logements locatifs sociaux, lancement d'une étude sur le centre-ville afin d'identifier les bâtiments mobilisables pour le logement et analyser l'opportunité de conduire une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Deuxièmement, conduite d'actions de communication incitative auprès des propriétaires privés de logements vacants ou dégradés. Troisièmement, accompagnement au montage de conventions avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, avec ou sans travaux, qui pourraient être assurées par toute structure compétente, notamment des associations, des agences immobilières à vocation sociale et géographiquement compétentes. Et enfin, l'étude sur la possibilité d'intégrer des logements communaux dans le parc de logements sociaux. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant traite toujours d'urbanisme, affaires foncières, un petit dossier, mais c'est la cession à la commune d'une parcelle qui est située chemin de Saint-Michel par Grand Delta Habitat. Donc c'est Christian Royer qui commente. Merci.
La société Grand Delta Habitat, propriétaire de la résidence locative des Jardins, a proposé à la commune de lui céder gracieusement une petite tranche parcelle lui appartenant située en bordure du chemin Saint-Michel. Ce terrain cadastré section AE numéro 277 représente une superficie de 130 mètres carrés. Celui-ci fait partie de la chaussée du chemin communal précité. Compte tenu de cette situation particulière, les responsables de cet organisme ont estimé qu'il n'était pas judicieux de conserver ce bien. Dans le passé, cette société a déjà cédé à la commune un espace pour permettre l'extension des aires de stationnement du groupe scolaire des Jardins, ainsi que la surface nécessaire à l'aménagement d'un trottoir en bordure du chemin des Estourants. Les frais liés à cette opération, par le notaire, seront pris en charge par la commune. Je vous propose de m'autoriser à signer les documents nécessaires à cette acquisition. Vous voudrez bien en délibérer.
Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions ? Non ? Très bien. Donc je vous propose de passer au vote et d'accepter la cession gratuite à la commune de la parcelle appartenant à Grand Delta Habitat, située au droit de la résidence Les Jardins, le long du chemin Saint-Michel, cadastrée section AE numéro 277 et d'une superficie de 130 mètres carrés. D'accepter la prise en charge par la commune des frais de notaire et d'autoriser le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme et aux affaires foncières à signer les documents nécessaires. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le dernier point à l'ordre du jour concerne les affaires de patrimoine et c'est notamment l'adhésion de la commune à l'association des élus du patrimoine de Vaucluse. Et je demande à Florence Andrzejewski de bien vouloir nous la commenter. Merci.
Alors, le département de Vaucluse recèle un patrimoine important constitué de sites naturels ou industriels, de monuments, d'objets d'art présentant un caractère historique, culturel ou artistique indéniable. Ce patrimoine, réparti sur tout le territoire, se dégrade naturellement pour de multiples raisons. Le contexte économique préoccupant que subissent actuellement les collectivités territoriales, assorti du désengagement sensible de l'État, rend les projets de réhabilitation des biens culturels parfois difficiles à conduire à leur terme. Toutefois, l'impact en termes d'attractivité et de dynamisme économique et touristique d'un patrimoine sauvegardé fait de la préservation et de la valorisation de celui-ci une nécessité fondamentale pour le rayonnement des communes. Conscient de cet enjeu majeur pour l'avenir de leur collectivité, un certain nombre d'élus a décidé de favoriser des actions de préservation et de mise en valeur de leur patrimoine sous toutes ses formes. Soucieux de leur responsabilité en termes de transmission, ces élus considèrent comme une priorité de se consacrer à la préservation des biens culturels dont ils ont la charge. À cet effet, ils ont souhaité créer l'Association des élus au patrimoine de Vaucluse, AEPV. Cette nouvelle structure permettra de constituer un réseau de professionnels, d'experts, de conseillers et de personnes ressources dans le domaine de la restructuration patrimoniale, de la recherche de financement et de l'expertise de projet. Cette association a également pour objet d'aider à défendre, à sauvegarder et à valoriser le patrimoine vauclusien dans un esprit de service public. Cette nouvelle structure propose, entre autres, une coordination des élus des communes du département de Vaucluse et des responsables d'associations patrimoniales qui agissent à l'échelle communale ou intercommunale. Ceci doit permettre de leur faire prendre conscience de la nécessité de protéger et valoriser le patrimoine de leur commune, mobilier, immobilier, naturel, matériel et immatériel, qu'il soit ou non inscrit ou classé. La constitution d'un réseau de professionnels, d'experts, de conseillers, de personnes ressources dans le domaine de la protection, de la valorisation patrimoniale, de la recherche de financement, de l'expertise de projet. Et enfin, la création d'outils de soutien, d'aide et de conseil dans les démarches de connaissance de protection du patrimoine des communes, des intercommunalités et des associations patrimoniales adhérentes. Cette assistance concerne aussi bien des actions de diagnostic, de recensement, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, mais aussi de formation, d'information et de communication sur le patrimoine, d'aide à la recherche de financement sous forme de mécénat, de subventions, et de partenariats et d'échanges de bonnes pratiques dans le but de sauvegarder et de valoriser les richesses. L'Association des maires de Vaucluse, consciente de l'intérêt d'une telle structure, a accepté de parrainer l'AEPV et de fixer son siège social dans ses locaux en Avignon. Les tarifs d'adhésion pour l'année 2015 varient de 50 euros minimum pour les communes de moins de 1000 habitants à 2000 euros minimum pour la région. Pour ce qui concerne la strate dans laquelle s'inscrit la commune du Thor, ce montant est fixé à 250 euros minimum. Il est proposé que la commune adhère à cette association.
Merci. Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions ? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie.
Juste une question sur le fonctionnement. Chaque fois que la commune demandera une aide dans le diagnostic ou des informations, le service sera payant ? Ou ça rentre dans le cadre des 250 euros au titre de l'adhésion ?
Florence.
Ce sera gratuit.
C'est gratuit.
Sera gratuit. C'est un ensemble, en fait, c'est l'ensemble des élus au patrimoine de chaque commune ou les délégués culturels qui participent à l'association, qui apportent leur concours, leur réseau. C'est un conseil. C'est pas les élus des communes qui vont aller faire des diagnostics dans les autres communes. C'est une aide. Voilà. Donc c'est une adhésion et il faut que chaque commune puisse délibérer en ce sens.
Et chaque avis d'expert est gratuit.
Et pas forcément, parce qu'il y a des expertises qui peuvent être payantes. Mais après, ça, c'est de la responsabilité de chaque commune de décider si elle veut faire appel à des experts du réseau. Voilà. C'est un ensemble de carnets d'adresses qui est mis à disposition. Voilà.
D'accord.
Entre autres.
Merci. D'autres questions ? Non ? Très bien. Donc, je soumets à votre délibération, votre vote, d'approuver l'adhésion de la commune du Thor à l'Association des élus au patrimoine de Vaucluse, AEPV, comme c'est bien écrit, et d'autoriser le versement de la cotisation annuelle 2015 pour un montant de 250 euros qui sera prélevé au chapitre 011, charges à caractère général. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, merci, approuvé à l'unanimité. Donc, nous arrivons à l'issue de ce conseil. Je vous remercie de votre attention. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut signer le registre du dernier conseil de votre présence et que le prochain conseil a lieu le 24 mars à 19h. Voilà. Merci. 24 mars.
Olivier Louis.